Marceau 2.0.
Changé, moi, là.
Tente comme un agneau.
Je te regarde aussi, c'est vrai que t'as changé, hein?
J'essaie d'y aller par étapes, t'sais.
Boulevard.
13h20, merci d'être bien branché sur Boulevard 102.1. Il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-102.1, 418-971-102.1. Prochain sujet, ça va être un sujet le fun à jaser, puisque j'ai le plaisir de retrouver Jean-François Gagné, la Fédération des employés préhospitaliers. C'est au syndicat. Je t'ai-tu bien présenté, Jeff? Il me semble qu'il me manque des affaires là, dans ma présentation.
Ah, les titres, c'est secondaire.
Les titres, c'est secondaire.
Pas de problème, l'important, c'est le contenu de ton vie.
T'es ambulancier depuis combien de temps?
Ah, ça va faire 20 ans. 20 ans cette année, oui. Bon. À Québec, ici, là. Fait que je sais un peu de quoi je parle.
Toujours aussi passionné?
Oui, toujours aussi passionné, mais toujours aussi à l'affût des aberrations qui nous entourent.
Comment ça se passe, là, actuellement, sur le réseau?
J'aimerais ça te dire que ça s'est amélioré beaucoup, mais la vérité, c'est que ça s'est rempiré. Écoute, il y avait ajouté un 6000 heures de service cet été, là, pour essayer de combler un peu la surcharge de travail. Ouais. Puis. Malheureusement, à l'aube de la saison des virus, ils ont tout retiré ça. Fait que juste pour te donner une idée, là, mes trois derniers jours de travail, j'ai fait à peu près 1 heure et quart d'over et demi, puis j'ai pas d'air de manger de la journée. Là. Fait qu'un appel après l'autre, après l'autre, après l'autre.
Ils embauchent-tu encore pas mal?
Au fait, ils embauchent. Le problème, c'est plus de mettre les camions en service sur le terrain. Parce que des paramédics ici, dans la région de Québec, on en a un puis un autre. Là. C'est pas comme ça à Côte-Nord, on a une vraie pénurie de main-d'œuvre ou en Abitibi. Ici, on aurait les gens à mettre dans un camion.
Ouais.
Le problème, c'est ça. C'est un peu une certaine volonté politique ou je sais pas si c'est l'Agence de la santé là, qui va commencer ou quoi que ce soit, ou les CIUS ou le ministère. Mais bref. On n'est pas capable d'avoir du service, malheureusement.
Jeff, la semaine passée, tu m'as écrit par texto, tu dis « Yann, je vais te présenter quelqu'un, c'est un professeur de l'unité du département des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Rimouski. » Je dis « Wow, il va me parler de quoi? » Tu as dit « Il a fait une étude. » Pourquoi tu voulais qu'on parle de ça cette semaine?
Bien, parce que c'est un peu de concrétiser ce que je te dis depuis des années, ouais. Qu'on est en surcharge, on n'est pas vraiment apprécié nécessairement notre juste valeur par les autorités compétentes. Je parle pas de la population. Là. La population nous le rend bien. Souvent, on est premier au palmarès des métiers. Mais on a beaucoup de surcharge de travail, de la charge mentale, des dépressions, beaucoup de problèmes en santé mentale.
Vous voyez des choses, autant les policiers que les soldats aussi, vous voyez des choses que le commun des mortels ne voit pas.
Là. Oui, puis tu me fais penser, on en jasait justement tout à l'heure, j'ai dit la différence entre moi et le policier, souvent, c'est que j'ai les mains dedans.
À l'intérieur d'eux.
Il faut que je travaille sur le patient. Je ne fais pas juste attendre la cavalerie. Je dois gérer ça puis vivre avec. Fait que...
Yannick, il dit souvent que ça ne devrait même pas être une intervention policière. Est-ce que tu vois cette entraide-là avec les policiers comme étant nécessaire ou effectivement, il faudrait que ça soit un petit peu...
On est excessivement complémentaires, j'ai envie de dire. Mon métier commence où le sien s'arrête puis le mien s'arrête où le sien commence. C'est-à-dire si j'ai un patient agité, que ça brasse... J'ai besoin d'un contrôle ou quelque chose, bien là, la police, je suis très content de l'avoir à mes côtés. Puis de la même façon que quand lui arrive, c'est un accident, puis on a beaucoup là, des blessés
mort.
Majeurs.
Ouais.
Oui, puis ça, c'est une donnée, je te dirais que j'ai ramassé de Julie Nadeau, mais on aurait à peu près 400% plus de chances de développer là, des dépressions ou des maladies en santé mentale là, comparativement à tout autre corps de métier. Comparé.
Parfait. On va accueillir ton professeur de l'unité du département des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Rimouski, que tu voulais qu'on accueille. Monsieur Côté, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'être avec nous.
C'est gentil de l'invitation.
Pourquoi avoir eu idée de faire cette étude-là sur nos ambulanciers?
Mais c'est assez cocasse, c'est que notre monsieur que vous avez parlé précédemment, Jean-François, il était étudiant.
Ouais.
Il est venu dans mes cours, je donnais un cours un samedi sur deux, et puis Jean-François, il suivait le cours de dimension psychologique en santé et sécurité au travail, parce que je suis responsable des programmes de premier et deuxième cycle à l'Université du Québec à Rimouski, campus Lévis. Et Jean-François me disait, écoute Charles, avec tout ce que tu es en train de nous dire au niveau des modèles sur le stress psychologique, dépression, anxiété, on a vraiment un corps de métier où on devrait faire une étude pour justifier justement où on en est rendu en post-pandémie sur les états de stress post-traumatique, les états d'anxiété, dépression et le Marshall Burnout Inventory, monsieur, c'est la mesure du stress, la mesure de tout ce qui est... troubles d'adaptation en milieu de travail.
Ça, ça n'avait jamais été fait auparavant?
Attendez, je trouve que la question est pertinente. C'est qu'on a mesuré, on a recensé les études à travers le monde, parce que nous, à l'université, il faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe pour comparer. Et au Québec, on a trouvé beaucoup d'études avec les policiers. Il y a beaucoup d'études de fait avec les infirmières, les pompiers, mais il n'y en a pas beaucoup auprès des paramédics, même avant la pandémie. Et post-pandémie, il y en avait zéro. Donc, on savait qu'il se passait de quoi, mais on voulait avoir l'état juste du terrain actuellement en 2024.
Est-ce que vous aviez des idées préconçues sur votre étude avant de la faire? Qui a fait en sorte que quand vous avez fait l'étude, vous avez dit « Oh boy, je pensais pas que c'était aussi répandu que ça ».
Bien, on avait des soupçons parce que y a des étudiants aussi qui font des travaux de recherche et ils sont paramédics et ils sont dans mes cours. Donc, ouais. Moi, je corrige les devoirs de session puis je voyais qu'il se passait de quoi. Mais monsieur, pour répondre à votre question, monsieur Marceau, de façon générale, on peut voir qu'environ 25 % des gens qui travaillent actuellement en 2024 sur les lieux de travail sont pas bien. C'est ça qui est un petit peu angoissant pour moi. Qui a
un travailleur sur quatre.
À peu près. Je vois grosso modo, là, on n'a pas parlé de homme-femme, parce qu'on pourrait, si vous voulez, aller un petit peu plus en détail, mais pour informer la population québécoise, il y a environ un paramédic sur quatre qui est sur le terrain et qui devrait pratiquement pas l'être sur le terrain, parce que même lui ou elle ont des problèmes de santé mentale. Parce que lorsqu'on a mesuré le Marshall Burnout Inventory, qui est un instrument de mesure validé sur le trouble d'adaptation, on a vu des résultats très importants sur la dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est la perte d'empathie envers tes clients, envers les patients que tu vas traiter.
Comme un peu du travail à la chaîne.
Exactement.
Parce que tu vas moins bien, tu manques d'empathie.
Ça ressemble à ça.
C'est un emploi que tu as nécessairement besoin de ça au quotidien, envers toi-même et envers les autres.
C'est ça. Exactement. Puis le but de l'étude, c'était de mettre dans un premier temps, on n'ira pas tout de suite dans les recommandations, mais c'était de voir l'état des lieux.
Et non, on parle pour la capitale nationale
non,
et
non, non,
Lévis,
ou... attendez, 14 régions administratives du Québec.
Oh, OK, c'est une grosse étude. Là.
Bien, c'est parce que, pour continuer un petit peu sur ce que je disais par rapport au monsieur précédemment avant moi, c'est que lui a décidé qu'il fallait avoir une étude, c'est que dans leur convention collective, ils ont prévu des fonds pour faire quelque chose sur la santé mentale. Et dans leur décision... De l'équipe, ils ont décidé de faire une étude universitaire et ils ont décidé de choisir l'UQAR Campus Lévis pour mener cette étude-là de façon objective. Ce n'est pas parce que les sous sont avancés par les syndicats que nous sommes directement reliés aux syndicats. C'est vraiment objectif. On a passé un comité d'éthique et on a eu 282 paramédics qui ont répondu à notre questionnaire sur une possibilité de 1700. Et le 16,6 % que nous avons obtenu, c'est valide, parce qu'à partir de 10 % on a une saturation des données. Donc, tout ce qui est présentement va aller... On a même des endroits pour présenter, comme la Saskatchewan, excusez. Il ne faut pas aller trop loin, mais nous avons aussi, à Montréal, on a été invité aussi par les paramédics. On a présenté à Stoneham devant les paramédics, et c'est la première fois de ma vie de professeur. Ça fait quand même 22 ans que je suis dans le métier, que j'ai une ovation presque debout pendant 12 minutes des paramédics pour... Dans le fond, M. Côté, merci de s'occuper de nous.
Il était content que ça sorte.
Oui.
Ouais. Qu'avez-vous trouvé d'autre dans votre étude qui sont pertinents pour l'auditoire?
Oui, l'auditoire, tu sais, parce que les problèmes de santé mentale, c'est quand même important, surtout pour les métiers d'urgence. Parce que moi, j'ai une fille, tu sais, qui est en sciences infirmières. Parce que moi, j'ai été 19 ans comme professeur dans un autre territoire en sciences infirmières. Et là, je suis en sciences de la gestion, mais je gère de la santé-sécurité. Et je tiens juste à vous dire que lorsque nous avons des professions dites dans le domaine de la santé, c'est souvent là que nous le sommes pas en santé. Tu sais, les infirmières, les paramédics, c'est des gens qui doivent gérer la santé, mais on ne s'occupe pas de leur propre santé souvent. Et c'est là que ça devient important.
C'est cordonnier mal chaussé parfois.
C'est bien dit. Ouais. C'est exactement ça.
Alors, vous écoute.
Vous êtes gentil. Je vois que vous m'écoutez. En tout cas, les gens à la maison, vous ne voyez peut-être pas, mais lui mais... et la dame aussi à ma droite. Alors, déterminer les symptômes, parce qu'on est dans une étude préliminaire pour déterminer les symptômes de dépression ou d'anxiété. Nous avions un questionnaire validé pour mesurer l'anxiété et la dépression des femmes et des hommes paramédics. Nous avions l'épuisement professionnel et nous avions le trouble du stress post-traumatique. Voulez-vous avoir les résultats?
Allez-y.
C'est sûr. Ce qui est le fun à dire, c'est que dans nos 282 sujets qui ont répondu au questionnaire, nous avions 60 % d'hommes et 40 % de femmes qui ont répondu. C'est important de dire ça parce que, M. Marceau, je dois tout de suite vous dire d'emblée que lorsque nous regardons les études faites dans d'autres pays et même au Canada, souvent les hommes ne participent pas aux études avec des traits sur les traits de santé psychologique. ils se retirent souvent. Et on a beaucoup de données chez les femmes, mais pas beaucoup chez les hommes. Et là, on a eu 60 % de 282 hommes. Alors, ça devient important.
C'est une très belle réponse. Puis, Jeff, je ne sais pas si tu es capable de me dire ça par cœur, mais c'est quoi le ratio homme-femme chez les ambulanciers?
On est direct on the spot, c'est 60-40 pour l'instant. Okay. Ouais, effectivement.
Ici, ah, c'est bien, ça fait une belle...
J'ai envie de dire que l'étude confirme ce qu'on savait tous un peu, finalement. Ouais. On constatait
tout qu'il y avait
une problématique.
Oui, mais en mettant des chiffres, parce que là, on peut vous prendre au sérieux au niveau gouvernemental ou encore quand vous avancez des choses. C'est triste à dire, mais ça prend souvent des chiffres pour faire valoir une voix. Là.
Ouais, puis dans ce sens-là, on a été présenté l'étude, je te dirais, à Santé Québec là, au début du mois, le 4. Et puis on est encore en attente d'une réponse favorable de la part de Santé Québec, en espérant que ce ne soit pas un pare-feu.
Favorable là, étant pour consulter votre étude ou favorable?
Au fait, nous, ce qu'on voudrait éventuellement, c'est bien sûr là, développer encore plus la recherche. Donc, une étape 2, à savoir des recommandations, se doter d'outils et de leviers pour être capable d'intervenir sur la situation.
D'aller plus loin avec ça. Puis justement, Yannick, c'est sûr qu'il y a soif des statistiques. Là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre étude fondamentalement en termes de recommandations ou d'observations?
Mais pour les recommandations, je tiens à vous dire que l'étude, c'est une étude préliminaire et nous devons faire qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain. Tout ce qui est recommandation va être dans l'étude numéro 2.
Okay.
Parce qu'on a une étude en 2025 qu'on prévoit le 1er septembre pour répondre à la question de madame. On a des recommandations qui s'en viennent. Mais actuellement, il est un petit peu trop tôt pour tout mettre sur la table au niveau des recommandations. On le sait un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. J'ai déjà annoncé à d'autres stations compétitives à vous qu'il y aurait probablement, moi ce que je vise, c'est une formation. Parce qu'au cégep, actuellement, pour être paramédic, ça prend 3 années de cégep. Donc, dans les cégeps, ça pourrait être intéressant de mettre sur pied un cours pour apprendre un peu les dimensions psychologiques que les gens vivent en milieu de travail. Parce que vous savez, M. Marceau, pour comprendre le métier, je suis dans le domaine de la santé, j'ai disséqué des cadavres 3 ans de temps à l'université, mais pour comprendre le métier, je suis allé avec les paramédics sur le terrain quelques fois et j'ai vu de mes yeux qu'est-ce qui se passait un petit peu au niveau de la surcharge de travail. Puis je trouve que ça mérite une compréhension de la part des instances décisionnelles gouvernementales pour comprendre qu'il faut mettre de l'argent sur ce métier-là. Parce que je ne dis pas que M. Dubé ne fait pas sa job. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que les paramédics ne sont pas pris au sérieux actuellement au niveau de ce qui se passe sur le terrain. Puis c'est souvent, comme disait Jean-François tout à l'heure, c'est souvent eux qui arrivent le premier sur les lieux. Et qu'est-ce qui s'ensuit de mes résultats? Alors, rapidement, le trouble du stress post-traumatique, la dépression, l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation puis l'accomplissement personnel. À notre grande surprise, je vous le dis tout de suite, à notre grande surprise, c'est les hommes qui sont en problème. C'est pas les femmes aussi, mais moindres. Les femmes ont coté très fort sur l'anxiété.
Même au prorata du pourcentage de
ceux
qui ont répondu.
Okay,
c'est
bien
important
dit.
De le dire. Là.
Très important. Pas parce que 60 % des hommes qui ont répondu qui vont avoir les pourcentages plus élevés. C'est 100 % d'hommes, 100 % de femmes. Ça, c'est une bonne remarque ici, là, au niveau. Tu serais bonne, toi, à la maîtrise, à l'université?
Yannick!
Je cherche des...
Mais moi, je fais une maîtrise avec lui à chaque jour.
Est-ce que,
mais, j'ai une thèse.
À quel niveau l'anxiété n'est pas hyper importante pour ce genre de travail-là? Parce que d'essayer de prévoir et de prévenir ce qui peut arriver sur tel ou tel dossier, c'est pertinent dans le travail d'un ambulancier ou d'une ambulancière. Tu sais, de savoir, OK, quand je vais arriver là, ça se peut qu'il soit en arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai-tu tout mon équipement? Est-ce que j'ai tout à sceptiser mes affaires.
Tu te demandes si c'est stressant,
elle est pertinente, cette anxiété-là?
C'est une bonne question que tu soulèves là. On ne l'a pas mesuré, mais nous, on a des constats de troubles, de problèmes de santé mentale.
OK. Ouais.
Dont l'anxiété. Là, vous arrivez, vous, dans le plus pointu.
Ah, c'est une nomenclature, là. Où est-ce que ça en va? C'est un terme de nomenclature dans une étude, mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est un stress relié, mettons, aux tâches ou aux à côté qu'on voit qui devient problématique, finalement, au quotidien, quand c'est peut-être pénurie de main-d'œuvre ou changement des tâches ou...
Et même l'âge des paramédics. Je veux pas trop être dans l'âgisme.
Mais non, mais avec l'expérience, c'est quelque chose qui se joue aussi, là.
Parce que en questionnant les gens qui sont sur le terrain depuis un certain temps, en consultant les employeurs et le syndicat, on s'est rendu compte que les paramédics... Êtes-vous au courant du nombre d'années qu'un paramédic dure sur le terrain? Mm. C'est-à-dire, lorsqu'il commence, mettons, à pratiquer?
10 à 12 ans?
5 à 7.
Oh!
Ça a diminué beaucoup?
Oui, puis même je suis généreux peut-être dans ce que j'avance. Mmh. Alors, je veux juste vous dire qu'il y a des attentes au niveau de la profession et face à ce que vivent les gens, ils décident de débarquer de la profession et de s'instruire sur d'autres éléments.
Ils vieillissent plus vite, là, Jeff, à 25 ans, il a de l'air de 45. Là.
Moi, je trouvais qu'il avait l'air plus jeune. Tantôt, je pensais qu'il avait commencé à 10 ans, tu sais. Comme ambiancé quand je l'ai vu, que c'est les cheveux de prince.
Mais oui. Puis, c'est intéressant, tu sais, la question de dépersonnalisation, c'est peut-être ça qui nous a surpris le plus, de voir la perte d'empathie des paramédics envers leurs patients.
Ouais.
Et ce qui nous a aussi allumé un petit peu, on a hâte de faire l'étude 2, c'est tout ce qui est stress post-traumatique, monsieur. Parce que les études 282 paramédics, ce sont des gens qui travaillaient, là. On n'a pas questionné les gens en absence de travail. Donc, on a des gens sur le terrain qui sont mal en point, qui conduisent des ambulances. Mm. Moi, c'est ça qui me fait. Ouais. C'est ça qui m'a un petit peu allumé.
Est-ce que nos paramédics sont suivis quand on a la chance de jaser avec des docteurs en psychologie? Ils nous disent, ben oui, ben nous, on doit régulièrement consulter d'autres docteurs en psychologie pour jaser, savoir si on est correct. À chaque année, ça se fait chez les docteurs en psychologie. Je crois que ça se fait chez les psychiatres aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça en place, que les paramédics puissent jaser avec quelqu'un régulièrement de ce qui s'est passé dans la semaine?
Pas juste à la demande, mettons.
Ouais, exact.
Au fait, on apprécierait énormément, puis c'est un peu là-dessus qu'on aimerait avoir justement des outils, une espèce de filet de sécurité pour pouvoir désamorcer tout ça. Parce qu'au-delà de la prévention, il y a des appels qui vont toujours devoir se faire, puis des drames humains qui vont devoir être vécus par les paramédics. Puis c'est un peu là que je dirais que la chaîne décroche, c'est que malheureusement, on n'a pas le support après ces appels-là. Parce que, tu sais, je regarde au niveau de la vigile et ces choses-là. Malheureusement, c'est le syndicat qui doit déployer des fonds pour envoyer ses membres à la vigile et non pas le gouvernement ou les employeurs.
Donc, est-ce que ça ne serait pas trop d'avoir, mettons, dans l'équipe, là, puis peut-être qu'il n'y en a pas assez, puis en tout cas, peu importe, là, mais un membre que sa job, c'est d'être psychologue auprès de ces gens-là, t'sais, dans l'équipe au quotidien. Vous direz qu'on a besoin de la radio aussi, mais on pourrait le laisser d'abord et avant tout aux ambulanciers.
Ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, un psychologue qui comprend l'ouvrage.
Ouais.
Un psychologue
spécialisé.
Spécialisé, ouais. Parce que souvent, le programme d'aide aux employés actuellement, de ce que j'ai su, c'est qu'il y en a des psychologues que les paramédics peuvent aller consulter, mais souvent, ils ne comprennent pas suffisamment ce que vivent actuellement les paramédics. C'est ce que je me suis fait dire, mais je n'ai pas validé rien.
Non, mais ça se peut quand c'est général, quand c'est... Puis même quelqu'un qui, par exemple, moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage que son père s'est suicidé. Bien, elle a vu des psychologues, mais quand elle s'est mise à trouver des psychologues qui sont littéralement spécialistes dans le deuil suite à un suicide d'un proche, c'est là où ça a changé, tu sais. C'est là où ça a vraiment permis une certaine... aide, là. Puis la dépersonnalisation est inquiétante aussi dans ce que vous nommez. Il y a un auditeur qui le dit, pour lui, c'est un commentaire qu'il fait en disant, bien, ça mène parfois au crime de guerre, mais la dépersonnalisation, quand tu sors de toi-même, quand tu agis dans quelque chose, quand tu n'as plus de conscience de toi-même, là, puis c'est là aussi que c'est inquiétant. Je trouve que c'est un gros mot dans votre étude, puis que ça a été pointé du doigt, là.
Bien oui, tout à fait. Tu sais, j'ai pas parlé des pourcentages, mais c'est presque 3 sur 4, là, la dépersonnalisation. C'est beaucoup, on est à 72%, là. Alors, tu sais, c'est quelque chose de majeur. Puis pour répondre à votre question, monsieur, que je trouvais intéressante, monsieur Marceau, au niveau des recommandations ultérieures, tu sais, puis même les gens à la maison, vous savez que Maslach, qui est un auteur sur le trouble d'adaptation, le burn-out, lorsqu'on n'a pas l'équilibre, on peut souffrir davantage. Puis moi, l'équilibre, je suis allé avec les 4 dimensions de Maslach, puis c'est le mot trèfle à 4 feuilles. Tu sais, pour les auditoires, là, trèfle, T, c'est le travail, R, E, le repos, F, famille, L, loisir, égale E, équilibre. Ce que je veux dire, c'est que, monsieur, tout à l'heure, Jean-François parlait de soutien social. Ça, c'est important. De la part des paramédics, si on est capable d'avoir un soutien social, c'est-à-dire des amis, pas nécessairement des amis paramédics, parce que oui, ça peut être des amis paramédics, mais une famille qui nous permettrait d'avoir un filet de sécurité. Parce que vous avez parlé de suicide tout à l'heure. Puis les gens qui s'enlèvent la vie, souvent, c'est qu'ils n'ont pas le filet de sécurité. Souvent, ils vont passer à l'acte parce qu'ils n'ont pas pu débrief, ils n'ont pas pu écrire, ils n'ont pas pu exprimer ce qu'ils ont vu, malheureusement, comme problématique.
Pour les ambulanciers, là, vous parlez.
Les ambulanciers, mais ça peut être d'autres corps de métier.
Oui, absolument.
Aussi. Alors, tu sais, c'est le verbaliser. Moi, j'ai marqué des choses, mais on va étudier ça. Mais, tu sais, réparer un trauma sans d'abord le verbaliser, c'est dur. Faut pouvoir parler pour guérir. Les hommes auraient-ils plus de difficultés à parler? Est-ce que, parce que moi, je côtoie des militaires dans ma famille, puis j'ai un oncle qui a été lieutenant-colonel de l'armée, puis je sens parfois qu'au niveau masculin, de dire que tu as un problème de santé mentale, c'est vu comme un... C'est pas bon, là. T'es pas bon, t'es une moumoune.
Mais ils ont été élevés comme ça aussi.
Effectivement.
Et formés pour beaucoup aussi dans le temps, là,
ouais.
Par rapport à ces métiers-là. Puis il y a aussi un devoir de réserve qui n'a pas aidé pendant de nombreuses années, là.
Mais même là, moi, quand j'étais jeune, les gens autour de moi, les gars, ça broyait jamais.
Ouais. Et c'est voilà. Un signe de faiblesse.
Ça broyait jamais, jamais, jamais. Est-ce que c'était un signe de faiblesse? Est-ce qu'on se considérait comme ça quand on est très, très jeune? Non. Mais plus tard, moi, je me rends compte que, tu sais, il y a des plus jeunes hommes maintenant à 20, 25 ans qui se permettent de broyer à la télé.
Ça te dérange-tu, toi?
Non, pas
parce
du tout.
Parce que t'as été élevé quand même de...
Mais j'ai pas cet instinct-là, moi, de quand ça va pas, de broyer. Mm-hmm. Je vais jouer au hockey, je vais courir, je vais passer différemment.
Mais t'as une soupape?
Ouais.
Hey, je suis content qu'est-ce que tu viens de dire là, parce que moi, quand même, il faut que je vous le dise, que le doctorat que j'ai, c'est en kinésiologie, puis j'ai fait un postdoc en ergonomie, mais que ce que tu viens de dire, c'est que souvent, quand on subit un stress, il faut le verbaliser ou bouger, il faut que le corps soit en action pour enlever l'aspect cortisol. Puis souvent, les paramédics qui vivent quelque chose, la nouvelle génération, M. Marceau, c'est qu'ils vont arriver dans l'ambulance, puis ils vont texter, ou ils vont être sur leur cellulaire. Excusez-moi.
Je t'en ai des textos, des selles.
Non, mais peu importe ce qu'ils font, ce que je veux vous dire...
Non, c'est déplorable.
C'est quand tu es en posture assise, statique, sans mouvement, puis que tu as subi un stress important. Tu sais, quelqu'un qui vient de voir un patron, qui vient de voir, puis tu n'es pas content, mais les gens vont taper plus fort sur leur ordinateur. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin d'extérioriser ce que tu as vécu. Et si tu ne l'extériorises pas, donc si tu as l'aspect silence, très dangereux.
Mmh. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez ça dans vos données, mais est-ce que les ambulanciers sont portés à s'auto-médicamenter avec de l'alcool, avec de la drogue, avec la cigarette? Sont-ils portés à le faire?
C'est drôle parce
Salut,
que...
Salut, Jeff!
Ouais, c'est sûr. Drôle.
C'est tellement drôle. C'est parce que je viens d'écrire un chapitre de livre dans un livre que j'ai ici. Là, j'ai pas eu le temps de le sortir parce qu'il fallait rentrer en onde rapidement. J'ai écrit un chapitre de 26 pages sur la charge mentale au travail. Puis ce que vous venez de dire au niveau de l'alcoolisme, des drogues, la textite que j'appelle l'inflammation du texto, ou encore la prise de le fait de dépendre de quelque chose, ça, c'est pour se sortir d'une charge mentale, monsieur.
Puis, ça peut donner un indice. Là,
oui.
Là, vous avez un invité qui est descendu de Montréal. Il reste comme 2 minutes à l'entrevue. Est-ce que...
c'est un répartiteur médical d'urgence puis il est avec nous depuis le début là, de l'étude en santé mentale. C'en est un instigateur avec moi. Ça fait que, puis on a constaté aussi qu'il va y avoir une étude future pour les répartiteurs médicaux d'urgence. Mais juste les chiffres d'assurance nous démontrent qu'on a des taux de dépression là, absolument...
Mais la CNSST va rentrer là-dedans à un moment donné.
Ça existait-tu avant aussi?
Ça fait partie des problèmes.
Parce que c'est la présomption. Au niveau de la présomption, malheureusement, pour un paramédic, voir des bébés morts fait partie de ton travail. Ça devrait pas être un... T'sais, c'est de la gestion de l'humain, le travail, c'est la route. Là. Même au niveau des RMU, des répartitions médicaux d'urgence, c'est de la goutte chinoise tout le temps, qui tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est la différence aussi. Vous avez le choc post-traumatique, vous avez aussi le traumatisme vicariant, qui est comme la goutte chinoise, qui à un moment donné, ça fait que ça éclate. C'est un peu ça. Puis la présomption au niveau des CNSST, ils ne reconnaissent pas ce travail-là parce que justement, les problématiques qu'on vit, ils disent que ça fait partie de ton travail, alors ils ne veulent pas l'indemniser. Alors que ça devrait donner des outils pour pouvoir s'en sortir. Ces
aïe, aïe, OK.
Rapidement, le 6 octobre 2025, les employeurs n'auront pas le choix, M. Marceau, de mettre en place des programmes de prévention en santé mentale. C'est la loi qui l'oblige, la LMRSST. Alors, je tiens juste à dire que les paramédics, avec leur étude, qui ont décidé d'aller de l'avant, ils sont avant-gardistes parce qu'on n'aura pas le choix de mettre en place des mécanismes de formation chez les gens pour comprendre les facteurs de protection et les facteurs de risque de la santé mentale au travail.
Ça a été un plaisir de vous recevoir, M. Côté. Lorsque votre deuxième partie de l'étude sortira, j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau. Je trouve ça franchement intéressant. Mm-hmm. Jeff, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu es de la Fédération des employés préhospitaliers. Tu es un des boss des ambulanciers. Merci d'être là, soit dit en passant.
C'est toujours un plaisir de venir en station.
Et votre ami qui est descendu de Montréal?
Stéphane Rainville.
Monsieur Rainville, ça a été un plaisir de vous rencontrer.
Merci pour l'invitation.
Merci. On fait une courte pause et on vient. Marceau le midi.